C'est vrai que les femmes enceintes, c'est comme si elles étaient encore une espèce à part entière. Elles deviennent en fait complètement pensées comme gérées par leurs hormones. Donc, on leur enlève complètement le fait qu'elles soient des sujets conscients, des sujets lucides, des sujets qui prennent des décisions.
Effraction, le podcast, vous fait découvrir 5 romans du festival Effraction qui explorent les liens entre littérature et réel. La 4e édition se tient à la Bibliothèque publique d'information du 8 au 12 mars 2023. Dans cet épisode, Bernadette, bibliothécaire à la BPI, reçoit Charlotte Debest, sociologue, pour évoquer les thématiques abordées dans Boulder de Eva Balthazar. Bernadette.
Boulder, la narratrice éponyme du roman d'Eva Balthazar, est cuisinière sur un cargo lorsqu'elle tombe amoureuse de Samsa, farouchement attachée à son indépendance et à sa solitude. Elle décide néanmoins de poursuivre leur histoire et s'installe avec elle en Islande. Leur amour est intense et sensuel, mais lorsque Samsa lui impose l'arrivée d'un enfant, leur couple se fissure. Tandis que le désir emporte la narratrice vers d'autres rives amoureuses, elle réussit pourtant à nouer un lien singulier avec l'enfant biologique de Samsa. Dans une langue inventive et fiévreuse, Eva Balthazar déroule dans Boulder une histoire d'amour vibrante entre deux femmes. Elle explore le rapport au corps et à la sensualité, y compris quand l'harmonie amoureuse se rompt. Avec humour et lucidité, et dans une grande liberté de ton, elle écrit la diversité des rapports à la maternité qu'incarnent les deux femmes, entre fusion et distance revendiquée. Une somptueuse exploration du désir, du couple et de l'amour, illuminée par des images inventives et fulgurantes. Le roman évoque tout à la fois le désir et le non-désir d'enfant dans le couple homosexuel. Quelles sont pour vous les spécificités de ce désir de famille ?
Charlotte Debest.
Ben, ce qui est sûr, c'est que c'est peut-être la question du désir d'enfant se pose différemment du fait qu'il y ait besoin d'une intervention extérieure, notamment. Donc on peut imaginer que le projet d'enfant est beaucoup plus pensé en amont. Puisque précisément la question de l'enfant dans un couple homosexuel ne relève pas immédiatement de l'évidence, contrairement au couple hétérosexuel.
Les lois récentes permettant plus largement la PMA pour les couples de femmes vont-elles à votre sens créer une injonction à la parentalité, y compris dans les couples non hétérosexuels ?
C'était en tout cas une de mes hypothèses, oui, le fait que on est dans une société, même déjà en fait pour les couples hétérosexuels, le fait que ça soit possible en cas d'infertilité de l'un ou de l'autre ou des deux, car en général c'est plutôt les deux qui sont hypofertiles. En effet, ça crée une espèce d'injonction, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une société, une injonction donc à la parentalité, puisqu'on est quand même dans une société où même quand on peut pas on est en droit de demander à l'État, par l'intermédiaire de la médecine, de nous procurer l'enfant qu'on ne pourrait pas avoir sans une intervention une fois de plus extérieure. Et donc, dans cette revendication du droit à l'enfant, d'une certaine manière, du droit à avoir des enfants des couples homosexuels, en effet, alors, ça renforce d'une certaine manière l'injonction, et notamment peut-être que ça renforce cette idée que, parce qu'on voit que ça se passe notamment du côté des femmes, parce qu'on n'est pas encore à la GPA, grossesse pour autrui, ça renforce cette idée que les femmes, pour s'épanouir, ont besoin d'un enfant. Et donc, ça, éventuellement, remet d'autant plus en question les femmes qui ne désirent pas d'enfant. Voilà, donc, en ce sens-là, oui, ça appuie éventuellement l'injonction ou le fait que ça soit, ça relève de l'évidence, du naturel et surtout de l'épanouissement personnel des femmes.
Un autre sujet du roman, c'est l'absence de désir ou la modification des désirs après avoir donné naissance à un enfant dans le couple. Est-ce que ces sujets sont en train d'émerger dans l'espace médiatique ?
Dans l'espace médiatique sont en train d'émerger à peu près tous les sujets qui relèvent de la sphère très intime et privée. Il me semble que c'est favorisé d'ailleurs peut-être par les réseaux sociaux où tout le monde fait part de sa vie, tout le monde commente la vie des autres, etc. Après cette question du désir d'enfant, du désir charnel, du désir charnel avec son ou sa partenaire, et puis du désir d'enfant, ce sont notamment la question du désir d'enfant, il me semble que ça émerge en effet dans la sphère publique. On se permet aujourd'hui de poser des questions qui relèvent de la sphère intime, ce dont on ne se permettait pas il y a encore, peut-être une quinzaine d'années, par exemple. Après, sur cette question, et qu'on retrouve très bien dans l'ouvrage, sur cette question du fait que, d'une certaine manière, le corps des femmes serait soit pour le désir charnel, avec son ou sa partenaire, soit pour l'enfant, me pose problème. Comme si, parce que ça rappelle finalement une dichotomie très forte qui, d'une certaine manière, fonde un petit peu la société patriarcale. Entre d'un côté les femmes qui en gros seraient disponibles sexuellement et de l'autre côté les mères qui seraient disponibles uniquement pour leurs enfants. Et je trouve que ça c'est assez, assez fort dans l'ouvrage sur ce, voilà, vraiment cette dichotomie, comme si dès le moment où Samsa est enceinte, voilà, il y a déjà un éloignement et une distance qui se crée avec sa partenaire et ensuite à l'arrivée de l'enfant c'est d'autant plus fort. Voilà, alors ça arrive certainement voilà, dans la vie réelle des femmes, mais je trouve que l'ouvrage appuie vraiment là-dessus et voilà, c'est encore une représentation finalement très dichotomique de l'individu femme qui pourrait pas être femme, c'est-à-dire garder en fait ses caractéristiques, sa personnalité, son corps, se l'approprier à différentes phases de sa vie, hein, parce que bien évidemment les corps des hommes aussi changent, mais peut-être notamment celui des femmes change. Et puis on leur rappelle bien qu'ils changent aussi, hein, donc voilà. Et donc se le réapproprier pour ce qu'il est, sans forcément devoir se dire, voilà, à partir du moment où j'ai un enfant, je ne suis plus disponible pour ma partenaire. C'est peut-être aussi au partenaire d'envisager le corps autrement et de changer avec, dans le comportement, dans les gestes, dans voilà. Donc je trouve que cet ouvrage notamment souligne cette représentation très dichotomique de l'individu femme.
Le roman décrit beaucoup les relations charnelles des deux protagonistes et le corps de la mère se substitue à un moment au corps de l'amante. Et donc, comment dans une société qui valorise à outrance la maternité, les femmes enceintes sont encore caricaturées et discréditées ?
Oui, les femmes enceintes, déjà globalement, enfin, si on part du principe, et je pars du principe, mais je ne suis pas la seule, que dans notre société actuelle, globalement, les femmes sont déjà un petit peu discréditées et dévalorisées par rapport au pôle plus masculin. C'est vrai que les femmes enceintes, c'est comme si c'était encore une espèce à part entière, au niveau du travail, par exemple, au niveau des relations sociales, amicales, au niveau des relations sexuelles. Au niveau des rapports de séduction, au niveau de même leur mental, hein, je veux dire, à la fois on peut tout leur passer, voilà, elles ont une envie de fraise, elles ont une envie de je sais pas quoi, ah bah c'est les hormones. Enfin, elles deviennent en fait complètement pensées comme gérées par leurs hormones. Donc on leur enlève complètement le fait qu'elles soient des sujets conscients, des sujets lucides, des sujets qui prennent des décisions et pas que des décisions complètement irrationnelles parce que les hormones créeraient je sais pas quoi. Donc du coup, en effet, à la fois il y a une valorisation et une survalorisation de la maternité, ou en tout cas de l'injonction à la maternité, et à la fois, en effet, une femme enceinte, elle redevient un peu, elle est un peu prise en charge. D'ailleurs, on le voit par le corps médical, par éventuellement l'entourage, si elle est bien entourée, par une fois de plus les relations de travail, etc. Elle redevient un peu comme un enfant d'une certaine manière qu'il faudrait protéger, voilà, et qui aurait des pensées comme ça plutôt irrationnelles ou des coups de folie. Donc en ce sens-là, oui, bien évidemment, ça discrédite ça discrédite les femmes en fait, parce que je dirais une femme enceinte, c'est une femme, c'est un individu femme. Ou même juste c'est une personne, c'est un humain, enfin, voilà, qui en l'occurrence porte un enfant. Et en plus derrière, ce qui est étonnant, c'est qu'on leur demande une responsabilité énorme une fois qu'elles sont mères. Donc à la fois on les infantilise presque avec bienveillance, on va dire avec relativement bienveillance durant tout le processus de la grossesse. Et ensuite par contre on les responsabilise d'un seul coup où c'est quand même globalement à elles de prendre en charge, même si les hommes bien sûr participent. Mais c'est à elle de prendre en charge cet enfant. Donc voilà, je trouve que ce que ça montre, cette question de la maternité, que ce soit dans l'ouvrage ou même plus globalement dans la société, c'est à quel point il y a toujours des injonctions contradictoires en fait qui pèsent sur les femmes. Et qu'on retrouve par exemple dans le désir sexuel, le désir d'enfant, être infantilisé, être méga responsable, etc. Donc une fois de plus, c'est toujours le même individu. Donc forcément, ce sont des injonctions contradictoires qui pèsent sur le même être humain qui, en l'occurrence, a été assigné femme à la naissance et qui a porté un enfant.
Dans le roman, Boulder représente le désir d'enfant de l'autre personnage, de Samsa, comme quelque chose qui lui est imposé. Est-ce que ça reproduit un stéréotype patriarcal de l'enfant qui est imposé à l'homme ?
Alors, en tout cas, ça reproduit cette idée que ça serait notamment du côté des femmes et du pôle féminin qu'il y aurait ce désir d'enfant très fort qui aurait absolument besoin d'être assouvi pour l'épanouissement des femmes. Et de l'autre côté, peut-être que si jamais on imaginait le personnage de Boulder comme plutôt du côté masculin, pour tout un tas de raisons, notamment ses caractéristiques autour de l'indépendance, de l'alcool, des fêtes, bon, etc., du coup comme une personne qui en fait ne prend pas complètement à part entière un projet d'enfant alors même que cette personne est censée être dans le projet d'enfant. Ce qu'on voit assez, en tout cas moi à partir de mes travaux de thèse donc sur les personnes volontairement sans enfant, ce qu'on voit dans le sens où très souvent l'entourage, par exemple s'il y a un couple hétérosexuel qui ne veut pas d'enfant, va supposer que ce sont les femmes qui ne veulent pas d'enfant et pas les hommes, comme si les hommes n'étaient pas complètement considérés dans ce projet de parentalité. Ce qu'on va voir aussi dans la prise de contraceptif, bien évidemment, ce qu'on va voir lors des éventuels rendez-vous pour une IVG, lors de l'accouchement, ensuite à la maternité. Peut-être que les hommes, parfois, ne s'impliquent pas complètement dans le projet, mais aussi rien n'est fait pour qu'ils s'y impliquent complètement. Ce qui peut parfois donner cette impression d'une imposition, où finalement, on ne leur a pas demandé leur avis. Après, bien évidemment, tout le monde est en capacité, normalement, de donner son avis et de dire clairement les choses si on ne veut pas d'enfant. L'autre chose qui est intéressante dans l'ouvrage, c'est ce besoin d'être à deux pour faire un enfant. Voilà, donc ce qui montre d'ailleurs aussi pourquoi peut-être c'est relativement bien accepté, même si je sais qu'il y a eu tout un tas de mouvements sociaux contre la possibilité pour les femmes d'avoir un enfant ensemble. Mais y a vraiment cette idée que, en tout cas, de plus en plus, l'enfant est un projet de couple. Et c'est extrêmement difficile de penser l'enfant comme un projet individuel. Et là, étonnamment, on le renvoie à quelque chose de très égoïste. Alors qu'un projet de couple, on renvoie à quelque chose un peu d'évident, de presque altruiste. Enfin, en tout cas, c'est beau de faire un enfant à deux. Mais de faire un enfant tout seul ou toute seule, ça passe du côté de l'égoïsme. Et c'est assez étonnant. Et peut-être là, pour le coup, ça en dit long sur l'injonction à la conjugalité aussi, dont découle bien évidemment l'injonction à la parentalité derrière. Qui est aussi soulignée par l'ouvrage parce que d'une certaine manière, Samsa, donc celle qui veut absolument un enfant, elle le fait toute seule puisque c'est un couple de femmes. Donc, elle le fait par l'intermédiaire de la médecine, mais elle n'a pas besoin, même génétiquement, biologiquement, elle n'a pas besoin de Boulder. Mais c'est quand même pensé comme un projet à deux, alors même que c'est ça aussi qui, pour le coup, va les diviser ou va mettre de la distance entre elles. Mais voilà, donc c'est aussi cette interrogation, je trouve, que souligne l'ouvrage autour de la question du couple et du projet d'enfant qui se pense nécessairement au sein d'un couple.
Et cela arrive. Cela qui n'a rien à voir avec ma vie, ni avec le périmètre kilométrique de vie censé me protéger des lois gravées dans le marbre intemporel, celles qui défient la contingence. Cela arrive à la maison comme un invité mortel, inattendu et funeste. La maladie qui ne frappait que les autres. « Je veux un enfant, » dit Samsa, « un enfant à nous, à toi. » Elle le dit, et je ne sens rien, comme si j'avais avalé de l'arsenic. Je suis glacée, c'est tout ce que je sais. 6 heures du matin. Le réveil a sonné il y a une demi-heure pour que nous ayons le temps de faire l'amour. J'ai son idée, ce sont ses mots. Elle ne me voit pas de la journée, et la nuit nous sommes trop fatigués, dit-elle. Elle a beau généraliser, c'est d'elle qu'elle parle, car quand je rentre la nuit, elle dort, mais moi, je suis très très chaude. Le réveil prétend tirer l'amour de son sommeil à cette heure terrible une ou deux fois par semaine. Je me lève, je me brosse les dents et je saisis le gode parce que ça va plus vite. Je la baise et elle se laisse faire, presque sans bouger. Elle accueille en elle un désir que je ne lui donne pas et le laisse circuler dans les couloirs de son corps comme un fantôme. Elle me saisit le menton pour que je la regarde en même temps que je la pénètre et la pénètre encore. Je n'y prends pas de plaisir, je m'y efforce. Elle me donne un baiser, comme si le baiser pouvait couvrir le silence qui sépare deux esprits quand des corps trop distants se livrent l'un à l'autre. Elle m'embrasse et elle m'appelle boule d'air. Quand elle jouit, elle m'appelle comme si elle se brisait, comme si elle appelait une pierre. Dire non, c'est la quitter. Je demande du temps. Je frôle la quarantaine, je n'en ai plus beaucoup, répond-elle. Paramètre de merde. Une semaine, je ne demande qu'une misérable semaine. C'est comme si le fait de ne pas avoir accepté tout de suite avait mis en évidence la nature tragique de notre lien, de ce qui resserre et qu'on nomme le couple. J'invente des arguments et les mets sur la table. Une belle dérobade. Nous n'avons pas le temps de nous occuper d'un enfant. Ce serait une grossesse à risque. Nous serions des mères attardées. Quand l'enfant irait au lycée, on nous prendrait pour ses grands-mères. Il n'y a pas de place dans l'appartement. Avoir un enfant, c'est prendre une assurance souffrance. À vie. Des arguments idiots qui ne sont pas à la hauteur du désir contre lequel ils lancent leurs flèches.
Cet épisode a été préparé par Bernadette Vincent. Merci aux éditions Verdier. Lecture par Caroline Girard. Réalisation Michel Bourzex et Gilles Dégis. Musique Thomas Boulard. Ce podcast a été produit par Balise, le magazine de la Bibliothèque publique d'information. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur balise.bpi.fr et sur les plateformes de podcast habituelles.